Chapitre 1. Cultiver une nouvelle mentalité. Notre profession occupe généralement une large part de notre temps de veille. De la main de Dieu, elle peut devenir vocation, lumière et saveur dans une société en mal de confiance, de générosité et en recherche de bâtisseurs authentiques. Le travail séculier n'est pas une perte de temps. Je rencontre des chrétiens pleinement consacrés, qui, sur le plan professionnel, pensent être punis par Dieu. « Toi, me disent-ils, comme évangéliste, tu fais au moins quelque chose d'utile. Ma vie à moi ne sert à rien. Mon métier, je le déteste. Je ne l'exerce que pour avoir de quoi payer mes factures. Heureusement qu'il y a le culte, le groupe de prière et la chorale pour donner un sens à mes semaines. » Quand j'entends de tels propos, mon cœur saigne. Nous spiritualisons tellement le travail à plein temps que la raison pour laquelle Dieu nous a donné notre métier finit par être criblée de doutes, voire de mépris, au point de devenir à nos yeux une œuvre morte. D'autres pensent secrètement qu'un jeune croyant, s'il est vraiment spirituel, deviendra pasteur ou évangéliste. S'il l'est moins, il sera facteur ou boulanger. Selon ce point de vue, il y aurait ainsi dans une communauté de 200 membres 3 ou 4 personnes qui travailleraient pour Dieu et le reste pour le monde. Cette pensée mensongère assombrit la vie de très nombreux disciples. Il est temps de dénoncer tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Aborder cette question de front, c'est permettre à la vérité biblique de redonner joie et liberté à tous les corps de métier. Dieu n'a pas fait d'erreur en conduisant plus de 90% des chrétiens à pénétrer par leur profession tous les secteurs de la société. Un ingénieur œuvrant pour sa gloire est aussi important qu'un évangéliste. Un boulanger ou une infirmière travaillant pour sa gloire sont aussi importants qu'un pasteur. Certes, Christ peut changer notre profession, mais il peut aussi lui donner sa vraie dimension. Le miracle de Dieu est plus souvent un changement de mentalité qu'un changement de métier. Le royaume de Dieu s'étend plus par les laïcs que par tous les ministères réunis. À Manille, capitale des Philippines, alors que 4 000 responsables chrétiens de plus de 180 pays étaient réunis, un orateur nous posa la question suivante. Qui de vous a connu Jésus-Christ au travers d'un ministère établi tel qu'évangéliste, pasteur ou missionnaire? Environ 400 personnes se sont levées un instant pour l'attester. Il poursuivit. Qui d'entre vous a connu le Seigneur au travers de laïcs n'ayant pas de ministère particulier? Ce fut comme un raz-de-marée. L'immense majorité, soit 3 600 personnes, se tint debout. Quelle démonstration! 9 délégués sur 10 de tous les continents et de toute culture attestaient avoir trouvé le salut au travers de gens ordinaires. Comprenons que Dieu sauve bien plus de personnes par les plombiers, les cuisiniers, les institutrices, les professeurs, les artistes et ainsi de suite que par les professionnels de l'Évangile. Comment un évangéliste pourrait-il s'introduire dans votre bureau, votre école ou votre usine pour y annoncer la parole? À supposer qu'il y parvienne, ce ne serait qu'un événement ponctuel. Vous êtes la stratégie de Dieu pour votre milieu. Sa méthode n'a pas changé. Il met le sel dans la nourriture et la lumière dans la pièce à éclairer. La nourriture et la pièce représentent l'endroit où nous vivons, soit essentiellement notre place de travail. Il ne nous demande pas de former des paquets de sel à côté de soupe fade, il cherche à nous verser dans la soupe. Il ne nous appelle pas à nous retirer de la société, mais à briller en son sein. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, verset 17. Je travaille depuis 20 ans. Une femme s'est approchée à la fin du culte et m'a demandé « Dans ma communauté, nous avons envoyé plusieurs missionnaires. L'une d'elles est en Mongolie. À son départ, nous lui avons imposé les mains. Maintenant, nous lisons ses lettres de nouvelles, nous prions régulièrement pour elle et parfois nous jeûnons également. Nous lui envoyons paquets et courriers et la soutenons financièrement. Nous sommes fiers d'elle et je m'en réjouis. Pour ma part, je travaille depuis 20 ans, à raison de 8 heures par jour, parmi les alcooliques de la ville. Personne ne m'a jamais imposé les mains pour cela, ou même demandé un témoignage. Est-ce normal? Elle m'a fait penser à ces femmes, sans grande notoriété, mais très sages, qui, dans l'écriture, ont permis de changer diverses situations. Pour répondre à cette question, à laquelle je réfléchis maintenant depuis plusieurs années, j'aimerais partager ce que j'ai retenu du témoignage d'une autre femme, Elisabeth Cornelio. J'ai rencontré cette oratrice brésilienne à Lausanne lors du congrès Explo 2000, en présidant l'atelier qu'elle tenait sur la prière. La ville où elle a commencé son ministère compte 1 200 000 habitants. En 7 ans, le nombre de femmes qu'elle a réunies pour prier, réparties en petits groupes, a passé d'une poignée en 180 000. Pendant cette période, la proportion de chrétiens engagés dans sa ville a progressé de 6 à 45%. Leur émission radiophonique quotidienne est très suivie. La police elle-même demande leur prière pour mener à bien les enquêtes périlleuses, ce qui est bien plus biblique que ce que nous pourrions penser de prime abord. Voici le point essentiel que j'ai retenu pour le sujet qui nous concerne. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Psaume 127, verset 1. Bâtir et garder sont deux actions recouvrant à elles seules une multitude d'emplois. En fait, nous pourrions continuer cette liste pour chaque profession sans trahir le texte. La collaboration nécessaire que Dieu revendique entre toutes professions et lui est indispensable pour sortir de la vanité. Quand Jésus affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, verset 5b, il sous-entend aussi « Avec moi, tout métier digne de ce nom devient utile, précieux, béni. Sans moi, il n'est que poursuite du vent. » L'Ecclésiaste l'a exprimé ainsi. J'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, course après le vent. Ecclésiaste 2, verset 11. Elisabeth Cornelio nous a fait comprendre que prier pour les corps de métier d'une ville, comme elle le fait avec son armée de femmes, n'est pas une petite idée sympa pour égayer nos groupes en mal de nouveautés, mais une stratégie puissante pour réformer la société. C'est une semence pour passer d'une situation médiocre à une vie saine, d'une société sclérosée et chroniquement malade à une ville nouvelle. Car c'est alors que l'Éternel veille, bâtit, inspire, guérit. Une communauté locale comportant 5, 8 ou 12 cellules de prière peut ainsi proposer à chacune d'elles l'adoption spirituelle d'un corps de métier. Sans changer ni le rythme ni la durée des rencontres, celles-ci peuvent, pour une période donnée, soutenir un secteur de la vie de la cité. Car si l'Éternel n'enseigne pas, l'instituteur enseigne en vain. S'il ne garde pas la classe, la discipline est ruinée. Bien entendu, ce maître d'école peut l'ignorer et être non-croyant. Le groupe de prière, lui, a saisi l'enjeu réel de ce principe. Désormais, le système éducatif de la ville est soutenu par une petite garnison en prière. Les puissances occultes n'ont plus le champ libre. L'atmosphère change progressivement. Les décisions en haut lieu sont entourées d'intercesseurs. Il en est de même dans le domaine de la santé, du commerce, de l'administration, des services sociaux et industriels, des médias. Chaque groupe fait de saines recherches et s'intéresse aux personnes concernées, aux défis à relever, aux situations à lier et délier, afin que l'Éternel agisse dans toute la ville. Cette femme travaillant parmi les alcooliques a donc pleinement raison de poser sa question. La Mongolie a besoin de nos prières, et chaque travailleur de la ville, chrétien ou non, également. Je crois qu'arrivé à ce point, plusieurs de mes lecteurs désireront déjà passer à la pratique. Ce n'est ni lourd à porter, ni difficile à appliquer. Pour vous faciliter la tâche, voici, pour votre groupe ou communauté, une liste d'adoptions possibles. J'ai pensé premièrement à une ville ou à un village, mais l'idée peut être reprise pour un canton, un département ou un pays. À chacun de ces 17 métiers principaux s'en rattachent de nombreux autres. 1. La municipalité. Maire, conseillers municipaux, administrateurs, employés dans les services sociaux, les eaux, la voirie, les énergies, l'environnement. 2. L'éducation. Étudiants, instituteurs, professeurs, pédagogues, éducateurs. 3. La santé. Médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, ambulanciers. 4. Le commerce. Agriculteurs, commerçants, hommes d'affaires, industriels, banquiers. 5. L'immobilier. Agents, promoteurs, entrepreneurs, architectes, maçons, électriciens, plombiers, jardiniers, paysagistes. 6. Les transports. Chauffeurs, cheminots, pilotes, marins, mécaniciens. 7. Les communications. Informaticiens, monteurs, postiers, facteurs. 8. La justice. Magistrats, policiers, douaniers, gardiens de prison. 9. Les médias. Directeurs, journalistes, animateurs, éditeurs, publicistes, graphistes. 10. Les arts. Cinéastes, acteurs, écrivains, musiciens, photographes, chorégraphes, peintres. 11. Les services. Hôteliers, restaurateurs, notaires, coiffeurs, réparateurs, assureurs. 12. Le sport et les loisirs. Entraîneurs, sportifs, gérants, animateurs. Au niveau d'une communauté, il découle une autre conséquence positive de cette liste d'adoption. La prise de conscience des métiers exercés par ses membres. Elle pourra donner naissance à un soutien réel et ciblé qui rejoint plus encore la question posée plus haut. Nous pouvons imaginer que, lors des cultes, un temps soit consacré à tour de rôle aux professions représentées. Rapports, témoignages, prières, écoute prophétique. En fait, les idées créatives peuvent se développer à l'infini. La notion du corps et du corps en mission dans la ville apparaît soudain bien plus concrète. La vision du pasteur, homme orchestre, entouré de quelques anciens, avec une foule quasi anonyme alignée devant lui, fait place à une riche variété d'ambassadeurs uniques, spécifiques, appréciés de tous. Nous réalisons que M. Miller, connu dans l'église comme celui qui sert la Sainte Seine et dont l'épouse est si gentille, est aussi garagiste. Il travaille au cœur de la cité, côtoie plus de personnes extérieures que le pasteur. Il les connaît, les sert à leur confiance. S'intéresser à lui et prier pour sa position stratégique relève de la plus élémentaire sagesse. Je crois cependant entendre l'objection de certains. Dans notre groupe de prière, nous prions déjà les uns pour les autres concernant notre travail. Désolé de vous décevoir, mais il s'agit de plus que cela. On ne désaltère pas un chameau avec un dé à coudre. Je crois que Dieu cherche dans ce domaine un changement radical des mentalités et non une gentille adaptation passant inaperçue. L'âme de l'Église se révèle dans la ville, essentiellement par ses membres au travail. Quelqu'un a dit « Le travail est le processus par lequel mon âme se révèle matériellement. Ce qui est dans votre cœur se révèle au travers de ce que vous faites. » Le meuble révèle l'âme de l'ébéniste, la maison celle de l'architecte, le tableau celle du peintre, et ainsi de suite. L'âme de l'Église se révèle dans la ville essentiellement par ses membres au travail. Si ces derniers sont reconnus, envoyés, nourris de cette vision, Ils en seront fiers et rechercheront naturellement l'excellence. Ils deviendront la tête, c'est-à-dire les modèles, les inspirateurs, les décideurs au sein de la collectivité. S'ils continuent à considérer leur profession comme un mal nécessaire, une occupation provisoire en attendant que, un manque de foi, sans parler, ils seraient déjà missionnaires en Mongolie. Ils n'en parleront que rarement et en auront plutôt honte. Certains végéteront sur leur lieu de travail comme une plante mal soignée. Ouvriers peu motivés, ils resteront dans le peloton ou à la queue de celui-ci. Rares seront ceux qui participeront aux nouvelles idées et orientations. Celles-ci seront presque entièrement sous l'influence de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voulons-nous changer de mentalité avant qu'il ne soit trop tard? Posons-nous alors la question suivante. Après le salut, le baptême et l'effusion de l'Esprit, que reste-t-il de passionnant à vivre pour le chrétien? Faut-il qu'il recommence? Qu'il révise ou qu'il attende passivement d'aller au ciel, en espérant que ce soit le plus tôt possible? Non, heureusement. Denis Peacock, orateur apprécié parmi les hommes d'action, nous fait réfléchir quand il dit « L'Église n'est pas une salle d'attente pour aller au ciel, mais un laboratoire de gouverneurs pour changer les nations. Quant aux yeux des fidèles, le seul service valable pour Dieu ne concerne que les réunions communautaires, les frustrations ne manqueront pas de grandir. Car il est évident que tous ne pourront pas prier à haute voix, prêcher ou servir activement dans chaque rencontre. D'où la question. Est-ce que l'on me considère? Qui suis-je finalement dans cette assemblée? Il y a là source de comparaison déplacée et stérile. Il est évidemment excellent de prendre des responsabilités au sein de l'Église, mais tout disciple qui a donné sa vie, donc son temps à Christ, devrait se considérer à plein temps à son service. J'ai fait la connaissance d'un gouverneur à Madagascar. Au culte, il était revêtu d'une humble robe de diacre, passant inaperçu au sein de dizaines d'autres. 2000 personnes assistaient au culte. Le lendemain, je l'ai croisé à l'aéroport dans son uniforme officiel tiré à quatre épingles. Il était aussi galonné qu'impressionnant, mais toujours au service du même Seigneur. Imaginez que tous comprennent la perspective de Dieu dans leur travail. 11 mois par an, où des dizaines, des centaines et dans certaines villes des milliers de disciples délivrés de la pensée de vivre sous la malédiction, font toutes choses au nom du Seigneur, le représentent dans les hôpitaux, les écoles, l'administration, le commerce, les médias et les usines. Ne serait-ce pas un fleuve de vie, une richesse immense qui se déverserait dans la cité? Les cultes et les autres rencontres communautaires ne prendraient-ils pas une dimension nouvelle? Quand nos yeux s'ouvrent, prenons l'exemple d'un chauffeur de taxi. Il arrivera qu'un client commence sa course découragé et la termine rasséréné. Un autre montera dans la voiture malade et en redescendra guéri. Mieux encore, un jour quelqu'un entrera dans le véhicule en étant sur le chemin de l'enfer et en ressortira sur le chemin du ciel. Ce taxi peut devenir celui du Seigneur et ce chauffeur son ambassadeur. Cela ne signifie pas que ce dernier parlera à tort et à travers, ni qu'il négligera son métier, bien au contraire. Cela signifie qu'il aimera ses clients au point de non seulement les servir au nom d'une compagnie ou de lui-même, mais au nom de son Seigneur. De plus, à l'écoute de l'Esprit, il lui arrivera d'intercéder précisément pour la ville qu'il sillonne, ses institutions, ses détresses, ses passants. Dans cette perspective, la dualité entre le fidèle du dimanche matin, chantant des cantiques et ponctuant la prédication du pasteur d'Alléluia retentissant, et le chauffeur de taxi renfrogné du lundi matin, muet et insensible au Saint-Esprit, est brisé. Il se nourrit de Dieu au culte et le partage au cours de sa semaine. Il apprend sa volonté le dimanche et la met en pratique dans son travail. Il est évident qu'elle inclura des valeurs usuelles comme l'honnêteté, la gentillesse ou la patience, mais il ira bien au-delà de cette limitation draconienne et injuste. Car il est écrit « Employés, obéissez à vos patrons, comme si vous vous trouviez au service de Christ lui-même. En servant les hommes, faites-le de bon cœur, comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. » Éphésiens 6, verset 5 et verset 7. Comme je l'ai développé dans mon livre « Comment surmonter les épreuves », le fils aîné, Luc 15, verset 25 à 32, dans la parabole du fils prodigue, travaille pour Dieu dans une perspective aveugle. Ne saisissant ni sa position d'héritier, ni celle de fils, il bosse dur, sans vision et sans enthousiasme. Puissions-nous écouter aujourd'hui notre Père, alors qu'il nous prie d'entrer dans sa perspective du travail. Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, exercez-le au nom de Christ. Considérez sa valeur et sa portée pour vous, pour votre communauté et pour votre région.